Chapitre 15. Chrétien et grand espoir, se voyant dans la prospérité et se sentant en paix, deviennent insouciants et négligent la vigilance. Ils prennent un sentier de traverse et tombent entre les mains du géant désespoir, mais ils implorent le secours de Dieu et sont délivrés au moyen de la clé de la promesse. Les pèlerins, poursuivant leur route, arrivèrent au bord d'une eau limpide que le roi David appelle le ruisseau de Dieu et Jean le fleuve d'eau vive. Chrétien et son compagnon devaient côtoyer cette rivière. La route était des plus agréables. Ils burent de l'eau du fleuve, qui était bonne et rafraîchissante. Des deux côtés de la rivière, on voyait des arbres verts, chargés de toute espèce de fruits. Les feuilles de ces arbres ont la vertu de prévenir toutes les indispositions auxquelles les voyageurs peuvent être exposés par suite de la fatigue et de l'échauffement. De chaque côté de la rivière était une prairie parsemée de muguets, et qui conservait sa verdure toute l'année. Ils s'y couchèrent et s'endormirent, assurés qu'en ce lieu ils ne pouvaient rien avoir à craindre. Quand ils se réveillèrent, ils cueillirent de nouveau du fruit des arbres, burent de l'eau de la rivière et se rendormirent. Ils passèrent ainsi plusieurs jours et plusieurs nuits. Après quoi, comme ils n'étaient pas encore au bout de leur voyage, ils poursuivirent leur route. Ils ne marchèrent pas longtemps avant d'arriver à un endroit où ils virent, à leur grand regret, que le chemin ne suivait plus le cours de la rivière. Cependant, ils n'osaient se hasarder à faire un pas hors de leur route. Le chemin qu'il leur fallait suivre était rocailleux, et leurs pieds étaient devenus très sensibles par suite de la longue marche qu'ils avaient déjà faite, en sorte qu'ils perdaient courage par le chemin et que tout en avançant, ils soupiraient après une meilleure route. Or, à quelque distance d'eux, à gauche du chemin, il y avait une prairie dont ils n'étaient séparés que par une barrière, et qui s'appelle la prairie du chemin détourné. Chrétien dit à son compagnon, « Si cette prairie côtoie notre route, passons-y. » Il s'avança vers la barrière et vit qu'il y avait de l'autre côté de la haie un sentier qui suivait la même direction que leur route. « C'est ce que j'espérais, » dit Chrétien. « Nous marcherons bien plus facilement de l'autre côté. Venez, mon cher grand espoir. »« Grand espoir, mais si ce sentier allait nous détourner ?» Chrétien, « Cela n'est pas probable. » Ne voyez-vous pas qu'il suit le chemin ? Grand espoir se laissa persuader. Ils passèrent la barrière et trouvèrent qu'on marchait bien plus facilement et plus agréablement de l'autre côté. Bientôt, ils aperçurent un homme qui cheminait devant eux dans le même sentier. Son nom était Vaine Confiance. Ils l'appelèrent et lui demandèrent où cette route conduisait. Il répondit « À la cité céleste ». « Vous voyez que nous avons eu raison, » reprit Chrétien. Ils continuèrent donc à avancer, précédés de leurs nouveaux compagnons de voyage. Bientôt la nuit survint, et il commença à faire très sombre, en sorte que Chrétien et son ami perdirent de vue l'homme qui marchait devant eux. Celui-ci, appelé, comme je l'ai dit, Vaine Confiance, ne voyant pas son chemin, se précipita dans une fosse profonde qui avait été creusée à dessein par le Seigneur de ces terres pour être en piège aux insensés pleins de confiance en eux-mêmes. Chrétien et grand espoir, l'ayant entendu tomber, l'appelèrent pour savoir s'il vivait encore. Mais un profond gémissement fut la seule réponse qu'ils obtinrent. « Où sommes-nous ? » demanda Grand Espoir. Son compagnon garda le silence, car il se doutait déjà qu'il l'avait égaré. Bientôt il commença à pleuvoir, à éclairer et à tonner d'une manière effrayante, et les eaux se débordèrent. Alors Grand Espoir s'écria en soupirant, « Hélas ! Pourquoi me suis-je écarté du chemin ? » Chrétien, qui aurait pu croire que ce sentier nous conduirait hors de la route ? Grand espoir, je l'ai craint dès le moment où vous avez voulu le prendre. C'est pourquoi je vous ai donné un avertissement amical. Je me serais exprimé avec plus de franchise, mais vous êtes plus âgé que moi. Chrétien, cher frère, pardonnez-moi. Je suis fâché de vous avoir fait sortir de la route, de vous avoir exposé à un danger si imminent. Ne m'en voulez pas, je vous prie, je ne l'ai point fait dans une mauvaise intention. Grand espoir, consolez-vous, mon frère, je vous pardonne, et je crois même que ceci tournera à notre bien. Chrétien, je suis heureux d'avoir affaire à un si bon frère, mais il ne faut pas nous arrêter ici. Essayons de retourner sur nos pas. Grand Espoir. Mais, cher frère, laissez-moi marcher devant. Chrétien. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous précéder. S'il y a quelque danger, il est juste que j'y sois exposé le premier, puisque c'est moi qui suis cause que nous sommes sortis du chemin. Non, dit Grand Espoir, vous n'irez pas le premier. Troublé comme vous l'êtes, vous pourriez vous égarer encore. Alors ils entendirent, pour leur encouragement, une voix qui leur disait « Prends garde au chemin et par quelle voie tu es venu. Retourne-t'en. » Mais dans l'intervalle, les eaux s'étaient élevées si haut qu'il était dangereux de reprendre le même chemin. Il est, hélas, bien plus facile de sortir de la route quand nous y marchons que d'y rentrer quand nous en sommes sortis. Cependant, ils se hasardèrent à retourner sur leurs pas. Mais la nuit était si sombre et les eaux si hautes qu'ils coururent 20 fois le risque de se noyer. Il leur fut impossible, quelque peine qu'ils se donnassent, de regagner la barrière pendant la nuit. C'est pourquoi, s'arrêtant enfin sous un abri, ils s'y assirent pour attendre le jour et, accablés de fatigue, ils s'endormirent. Or, il y avait non loin de l'endroit où ils se reposaient, un château appelé le Château du Doute, dont le propriétaire était le géant Désespoir, et c'était sur ces terres qu'il se trouvait alors. Le géant, s'étant levé de bonne heure et se promenant dans ses champs, surprit Chrétien et Grand Espoir endormis. Aussitôt, d'une voix rauque et menaçante, il les réveilla et leur demanda d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient sur ces terres. Ils lui dirent qu'ils étaient des pèlerins égarés. « Vous m'avez offensé en passant sur mon territoire, dit le géant. Suivez-moi maintenant. » Ils obéirent, voyant qu'il était plus fort qu'eux, et sentant qu'il n'avait pas grand-chose à dire pour leur défense. Le géant les fit marcher devant lui et les enferma dans un cachot sombre et dégoûtant. Ils y restèrent du mercredi matin au samedi soir, sans avoir rien à manger ni à boire, sans voir goutte, et sans que qui que ce soit s'informât d'eux. Ils souffrirent beaucoup dans cette cruelle situation, n'ayant personne pour les défendre ou pour les secourir. Et Chrétien en gémit doublement, en pensant que c'était son imprudence qui leur avait attiré ce malheur. Le géant Désespoir avait une femme qui s'appelait Défiance. Se trouvant seul avec elle, il lui conta qu'il s'était emparé de ces deux hommes, et qu'il les avait enfermés dans un cachot pour avoir passé sur ses terres. Il lui demanda ensuite ce qu'elle lui conseillait de faire de ses prisonniers. Quand il lui eut dit qui ils étaient, d'où ils venaient et où ils allaient, elle l'exhorta à les battre le lendemain matin sans miséricorde. En conséquence, quand le jour fut venu, il prit un gourdin, descendit dans le cachot où ils étaient, et se mit à les bâtonner comme des chiens, jusqu'à ce qu'ils fussent hors d'état de se mouvoir. Puis il se retira et les laissa déplorer leur triste sort. Aussi passèrent-ils toute la journée à pousser des soupirs et à se lamenter. La nuit suivante, Défiance parla encore à son mari des prisonniers, et apprenant qu'ils respiraient encore, elle lui conseilla de les encourager à se tuer. Le lendemain matin, il redescendit auprès d'eux, et voyant qu'ils étaient encore tout meurtris des coups qu'il leur avait donnés la veille, il leur dit que, comme ils ne pouvaient avoir aucune espérance de sortir jamais de ce cachot, ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de sauter la vie par le fer, par le poison ou par la corde. « Car, ajouta-t-il, pourquoi ne vous délivreriez-vous pas d'une vie remplie de tant d'amertume ?» Ils ne répondirent qu'en le suppliant de leur rendre la liberté. Mais il leur jeta un de ses horribles regards, et se précipitant sur eux, il les aurait sans doute assommés s'il ne lui fût survenu dans ce moment une espèce d'attaque convulsive qu'il avait quelquefois et qui le privait momentanément de l'usage de son bras. Il se retira donc et les laissa, comme précédemment, considérer ce qu'ils avaient à faire. Alors les prisonniers se mirent à délibérer et à se demander s'ils feraient mieux de suivre ou de rejeter le conseil que le géant leur avait donné, et ils eurent ensemble à ce sujet la conversation suivante. « Mon frère, dit Chrétien, que ferons-nous? La vie que nous menons ici est horrible. Pour ma part, je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux mettre fin à notre existence que de vivre dans cet état. J'aime mieux la mort qu'une telle vie. Et le sépulcre me paraît préférable à ce cachot. Suivrons-nous le conseil du géant ? Grand Espoir. Il est vrai que notre sort actuel est déplorable, et que la mort serait bien plus douce. Mais n'oublions pas que le seigneur du pays dans lequel nous allons a dit « Tu ne tueras point ». Et s'il nous est défendu d'ôter la vie à notre prochain, Assurément, il nous est aussi défendu de suivre le conseil du géant, qui est de nous ôter la vie à nous-mêmes. Celui qui tue son semblable ne peut lui ôter que la vie du corps, mais celui qui se tue soi-même fait périr son corps et son âme tout à la fois. De plus, mon frère, quand vous parlez du repos de la tombe, vous oubliez qu'il y a un enfer où vont assurément tous les meurtriers, car aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Enfin, souvenons-nous que le géant désespoir n'est pas tout-puissant. D'autres pèlerins, si je suis bien informé, sont tombés comme nous entre ses mains et lui ont cependant échappé. Qui sait si le Créateur de toutes choses ne fera pas mourir ce géant, ou si une fois ou l'autre, désespoir, n'oubliera pas de fermer à clé la porte de ce cachot, ou enfin, s'il n'aura pas encore en notre présence un de ces accès qui lui ôte l'usage de ses membres. Si cela lui arrive de nouveau, je suis déterminé à me comporter vaillamment et à faire tous mes efforts pour me tirer de ses mains. J'ai été bien fou d'en avoir laissé échapper l'occasion. Mais, mon frère, prenons patience, ne perdons pas courage. Peut-être sommes-nous à la veille d'obtenir une heureuse délivrance. Mais, quoi qu'il arrive, ne soyons pas nos propres meurtriers. Ces paroles calmèrent un peu l'agitation de Chrétien, et les deux prisonniers, toujours dans l'obscurité, passèrent encore toute la journée dans cette affreuse situation. Vers le soir, le géant redescendit dans le cachot pour voir si les pèlerins avaient suivi son conseil. Mais il fut fort surpris de voir qu'ils existaient encore malgré les coups qu'ils avaient reçus, et bien qu'il ne leur eût donné aucune espèce de nourriture. Il devint furieux et leur dit que puisqu'ils n'avaient pas voulu suivre son conseil, il les réduirait bientôt à regretter d'être jamais nés. À l'ouïe de ces paroles, la frayeur les saisit. Je crois même que Chrétien perdit connaissance. Mais revenu bientôt à lui-même, il s'entretint encore avec grand espoir du conseil que leur avait donné le géant, et ils se demandèrent s'ils ne feraient pas mieux de le suivre. Chrétien semblait disposé à mettre fin à son existence, mais grand espoir chercha une seconde fois à l'en détourner. « Mon frère, lui dit-il, souvenez-vous du courage que vous avez montré jusqu'à présent. Apollyon n'a pas pu triompher de vous, et vous ne vous êtes laissé abattre par rien de ce que vous avez vu, entendu ou éprouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. » À combien de difficultés, de dangers et de terreurs n'avez-vous pas échappé? Pourquoi donc trembleriez-vous maintenant? Vous voyez que moi, qui suis naturellement plus faible que vous, je suis avec vous dans ce cachot. Le géant m'a frappé, comme vous. Je suis comme vous privé de pain, d'eau et de lumière. Mais ayons encore un peu de patience. Rappelez-vous la fermeté dont vous avez fait preuve à la foire de la vanité. Ni les chaînes, ni la cage de fer, ni la mort sanglante dont vous étiez menacé ne vous en fait peur. C'est pourquoi, quand ce ne serait que pour ne pas déshonorer le nom de chrétien, possédons nos âmes par la patience aussi longtemps que nous le pourrons. Quand il fut nuit et que le géant et sa femme se trouvèrent seuls, celle-ci lui demanda si les prisonniers avaient suivi son conseil. « Ce sont de déterminés coquins, lui répondit-il. Ils aiment mieux supporter tout que de se détruire. S'il en est ainsi, dit-elle, conduisez-les demain dans la cour du château. Montrez-leur les os et les crânes de ceux que vous avez déjà expédiés. Et dites-leur qu'avant la fin de la semaine, vous les mettrez en pièces, comme vous avez mis en pièces tant d'autres pèlerins. » Le lendemain matin, le géant se rendit de nouveau auprès d'eux, les conduisit dans la cour du château, et, selon le conseil de sa femme, leur dit « Ces ossements sont ceux des pèlerins qui, comme vous, ont passé sur mes terres. Quand l'envie m'en est venue, je les ai mis en pièces, et c'est le sort que je vous ferai subir avant 10 jours. Redescendez maintenant dans votre antre. » Et en disant ces paroles, il les y reconduisit, les frappant tout le long du chemin. Ainsi, le samedi se passa tout aussi tristement que les jours précédents. Quand le soir fut venu, Madame Défiance et son mari recommencèrent à parler de leurs prisonniers, et le vieux géant exprima sa surprise de ce qu'il ne pouvait en venir à bout, ni par les menaces, ni par les mauvais traitements. La femme répondit qu'ils se flattaient peut-être que quelqu'un viendrait les délivrer, ou bien qu'ils avaient peut-être sur eux de fausses clés au moyen desquelles ils espéraient se sauver. « Croyez-vous, dit le géant, je ne manquerai pas de les fouiller demain matin. » Or, le samedi à minuit, Nos pèlerins se mirent à prier, et restèrent en prière presque jusqu'au point du jour. Mais un peu avant le lever du soleil, Chrétien s'écria tout à coup, du ton d'un homme qui vient d'être frappé d'une heureuse idée, « Imbécile que je suis, de rester étendu dans cet affreux cachot, quand il ne dépendrait que de moi d'être en pleine liberté. J'ai sur moi une clé appelée promesse, qui, j'en suis certain, ouvrira toutes les serrures du château du doute. » « Vraiment, dit Grand Espoir, voilà une bonne nouvelle. Prenez votre clé et essayons. » Chrétien la prit en effet, et ne l'eut pas plutôt mis dans la serrure que la porte du cachot s'ouvrit aussitôt. Ils sortirent tous deux et gagnèrent la porte extérieure qui conduisait à la cour du château. La clé l'ouvrit également. Ils s'avancèrent ensuite vers la porte de fer par laquelle il fallait aussi passer. La serrure en était dure et difficile. Ils en vinrent cependant à bout et poussèrent la porte afin de se sauver le plus vite possible. Mais le bruit qu'elle fit en tournant sur ses gonds réveilla le géant Désespoir, qui se leva en toute hâte dans l'intention de poursuivre ses prisonniers. Heureusement qu'il fut saisi tout à coup d'une de ses attaques, en sorte qu'il lui fut impossible de bouger, ce qui donna à nos pèlerins le temps de s'échapper. Ils furent bientôt sur le grand chemin royal, et là ils marchèrent en sûreté, car ils étaient hors des domaines du géant et à l'abri de ses atteintes. Quand ils eurent repassé la barrière qui était à l'entrée du champ, ils se concertèrent pour savoir ce qu'ils avaient le mieux à faire pour empêcher ceux qui viendraient après eux de tomber entre les mains du géant Désespoir. Après de mûres réflexions, ils se déterminèrent à élever dans cet endroit une colonne, avec cette inscription « De l'autre côté de cette barrière est le chemin qui conduit au château du doute, habité par le géant Désespoir, qui méprise le roi de la cité céleste et fait mourir les pèlerins qui s'y rendent. » Grâce à cet avertissement, plusieurs voyageurs qui ont depuis passé par là ont évité le danger. Chapitre 16. Les pèlerins sont bien accueillis par les bergers qui vivaient sur les montagnes des Délices. Poursuivant leur voyage, ils arrivèrent aux montagnes des Délices, qui appartiennent au seigneur de la colline dont nous avons déjà parlé, et ils y montèrent pour voir les jardins, les vergers, les vignobles et les fontaines qui s'y trouvent. Ils y burent, se baignèrent et mangèrent autant de raisins qu'ils voulurent. Il y avait au sommet de ces montagnes, près du chemin par lequel ils devaient passer, des bergers qui paissaient leurs troupeaux. Les pèlerins allèrent à eux, et, s'appuyant sur leurs bâtons de voyage, ainsi que le font les pèlerins fatigués quand ils s'arrêtent pour parler à quelqu'un, ils leur demandèrent à qui appartenaient les montagnes des Délices et les brebis qui y paissaient. Les bergers. « Ces montagnes sont le pays d'Emmanuel, et elles sont en vue de la cité céleste. Les brebis aussi lui appartiennent, et il a donné sa vie pour elles. » Chrétien. « Sommes-nous dans la bonne route ?» Les bergers. « Oui, vous y êtes. » Chrétien. « À quelle distance sommes-nous de la cité céleste ?» Les bergers. « Trop loin pour tout le monde, excepté pour ceux qui doivent y arriver. » Chrétien. « Le chemin n'est-il pas dangereux ?» Les bergers. Les voies de l'Éternel sont droites, aussi les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Chrétien. Y a-t-il près d'ici un lieu où les pèlerins fatigués puissent se reposer? Les bergers. Le maître de ces montagnes nous a ordonné d'avoir soin des étrangers, en sorte que les biens qu'offrent ces lieux sont à votre disposition. Quand les bergers s'aperçurent que les voyageurs étaient des pèlerins, ils leur adressèrent aussi diverses questions auxquels ils répondirent comme ils l'avaient déjà fait précédemment. « D'où venez-vous? Comment avez-vous pu trouver le chemin? Et comment avez-vous fait pour ne pas en sortir? » Car un très petit nombre de ceux qui se mettent en route parviennent jusqu'à ces montagnes. Ils furent satisfaits de leurs réponses, leur firent un très bon accueil et leur dirent « Soyez les bienvenus aux montagnes des Délices. » Ensuite, les bergers, dont les noms étaient Connaissance, Expérience, Vigilant et Sincère, prirent les voyageurs par la main, les conduisirent à leur tente, leur firent part de ce qu'ils avaient préparé et leur dirent avec bonté « Nous serons charmés que vous vous arrêtiez ici pour faire plus ample connaissance avec nous et surtout pour que vous jouissiez des biens qu'offrent les montagnes des Délices. » Les pèlerins répondirent qu'ils resteraient avec plaisir et allèrent se livrer au repos, car il était déjà tard. Je vis aussi dans mon songe qu'au point du jour, les bergers éveillèrent Chrétien et Grand Espoir pour les conduire sur les collines. Ils sortirent tous ensemble et se promenèrent pendant quelque temps, ayant de tous côtés une vue magnifique. Bientôt l'un des bergers dit aux autres, « Ne montrerons-nous pas à ces pèlerins quelques-unes des curiosités de ces lieux ?» Ayant tous approuvé cette idée, ils les conduisirent au sommet d'une colline nommée Erreur, dont un des côtés était très escarpé, et les invitèrent à regarder au fond du précipice. Chrétien et Grand Espoir, ayant tourné les yeux de ce côté, et aperçurent les cadavres de plusieurs personnes qui paraissaient avoir été mises en pièces en tombant du haut de la montagne. « Qu'est-ce que cela ? » dit Chrétien. Les bergers répondirent, « N'avez-vous jamais entendu parler de ceux qui, pour avoir prêté l'oreille au discours d'Hyménée et de Philette, ont fait naufrage quant à la foi à la résurrection des corps ? Ces cadavres défigurés que vous apercevez au pied de la colline sont les leurs. Ils sont restés jusqu'à présent sans sépulture, et exposés au regard pour servir d'exemple à ceux qui pourraient être tentés de trop s'élever ou de trop s'approcher du précipice. Les bergers conduisirent ensuite les pèlerins sur la cime d'une autre montagne appelée Prudence, et leur dirent de regarder devant eux aussi loin que leur vue pourrait s'étendre. Ils le firent, et il leur sembla voir des hommes marchant parmi des tombeaux. Comme ils trébuchaient fréquemment, et ne paraissaient pas pouvoir sortir du milieu de ces tombeaux, nos pèlerins en conclurent que ces hommes étaient aveugles. « Que signifie ceci ? » demanda encore Chrétien. « N'avez-vous pas vu, lui répondirent les bergers, un peu avant d'arriver aux montagnes des Délices, une barrière à l'entrée d'un sentier qui traverse une prairie à gauche de la route ? Eh bien, ce sentier conduit directement au château du Doute, qui appartient au géant Désespoir. » Ces hommes que vous voyez marcher entre ces tombeaux avaient entrepris le même pèlerinage que vous. Arrivés à cette barrière, et voyant que la route qu'ils devaient suivre devenait rocailleuse, ils préférèrent en sortir et passer par la prairie. Il en résulta qu'ils tombèrent entre les mains du géant Désespoir, et qu'ils furent retenus dans le château du Doute. Le géant les emprisonna dans un cachot, où il les retint pendant quelque temps. Il leur arracha enfin les yeux, et les conduisit parmi ces tombeaux, au milieu desquels ils errent continuellement. En sorte que cette parole du sage a été accomplie en eux, l'homme qui s'écarte du chemin de la prudence aura sa demeure dans l'assemblée des morts. En entendant ces paroles, Chrétien et Grand Espoir se regardèrent les larmes aux yeux, mais sans rien dire au berger. Ceux-ci menèrent encore les pèlerins au fond d'une vallée, dans un endroit où il y avait une porte pratiquée sur le flanc d'une montagne. Ils ouvrirent cette porte, et Chrétien et son compagnon de voyage virent que le lieu auquel elle conduisait était obscur et rempli de fumée. Il leur sembla distinguer le bruit pétillant des flammes. On n'y entendait que des pleurs et des grincements de dents, et il en sortait une odeur semblable à celle du soufre. Chrétien ayant demandé ce que c'était, les bergers lui dirent « C'est un chemin détourné qui conduit à l'enfer, un chemin par lequel passent les hypocrites, savoir ceux qui, comme Ésaü, vendent leur droit d'aînesse, ceux qui, comme Judas, vendent leur maître, ceux qui, comme Alexandre, déshonorent la profession de l'Évangile, et ceux, enfin, qui, comme Ananias et Saphira, mentent au Saint-Esprit. » Alors Grand Espoir dit au berger, tous ces gens ne voulaient-ils pas, comme nous, se rendre à la cité céleste ? Les bergers, oui, et ils ont même persévéré longtemps dans leur projet. Grand Espoir, jusqu'où des pèlerins peuvent-ils bien poursuivre leur route vers la cité céleste et cependant finir par s'égarer et se perdre ? Les bergers, quelques-uns viennent jusqu'à ces montagnes, d'autres ne vont pas même si loin. Les pèlerins se dirent l'un à l'autre, nous avons bien besoin de chercher la force auprès du Tout-Puissant. Les bergers, assurément, et quand vous l'aurez obtenu, les occasions d'en faire usage ne vous manqueront pas. Alors les pèlerins voulurent continuer leur route, et les bergers approuvant ce désir, ils s'avancèrent ensemble vers l'extrémité des montagnes. Voyons, dit un des bergers, si au moyen de nos lunettes d'approche, nos voyageurs sauront découvrir les portes de la cité céleste. Ceux-ci acceptèrent cette offre avec reconnaissance. Ils montèrent donc, avec les bergers, au sommet d'une haute colline appelée Lumineuse, où ceux-ci leur mirent entre les mains la lunette d'approche. Ils essayèrent d'en faire usage, mais ils étaient encore si émus par le souvenir des choses qu'ils venaient de voir qu'il leur fut impossible de tenir la lunette d'une main assez ferme pour pouvoir fixer distinctement les objets. Cependant, il leur sembla apercevoir quelque chose qui ressemblait à la porte de la cité céleste et découvrir une partie de la gloire qui l'environnait. Au moment de partir, l'un des bergers leur donna le plan de la route qu'ils devaient suivre. Un autre les exhorta à se tenir en garde contre le flatteur. Un troisième leur dit d'avoir bien soin de ne pas s'endormir sur le terrain enchanté, et le quatrième implora sur eux la bénédiction de Dieu.